Imaginez une forteresse immense, colossale, qui domine le Rhône. On dirait la demeure d'un roi guerrier, non? Eh bien, pas du tout. Pendant 70 ans, c'est de là, de l'intérieur de ces murs incroyablement austères, que tout le monde chrétien a été dirigé. Bienvenue au Palais des Papes d'Avignon, un lieu qui, vous allez le voir, est bourré de contradictions.
Quand on regarde cette structure, qu'est-ce qu'on se dit? C'est un château fort, clairement. Ce ne sont pas les murs d'une église, ce sont ceux d'un coffre-fort. On parle de murs de 5 mètres d'épaisseur par endroit. Une vraie citadelle, conçue pour résister à des sièges. On est à milieu de l'image qu'on pourrait se faire d'une résidence spirituelle, pas vrai? Eh bien, c'est justement ce paradoxe, cette tension entre la forteresse et la foi qui est la clé de toute son histoire.
C'est la grande question, celle qui explique tout. Pour comprendre pourquoi cet énorme palais existe, il faut d'abord se demander pourquoi les papes ont un jour décidé de faire leur valise. Quitter Rome, le cœur de la chrétienté, pour aller s'installer en Provence. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est une décision qui a complètement redessiné la carte du pouvoir en Europe à l'époque. Alors rentrons un peu dans le contexte. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que ce géant de pierre n'aurait en fait jamais dû exister. Ce n'est pas le fruit d'un grand projet bien planifié, non, non. C'est le résultat d'une crise politique majeure et d'une solution qui, à la base, se voulait complètement provisoire.
Ok, on fait un bond en arrière, en 1309. Le pape de l'époque, Clément V, est français. Il est vraiment coincé. D'un côté, il est en conflit ouvert avec le roi de France, Philippe le Bel, un personnage très très puissant. De l'autre, il y a Rome. Et Rome, à ce moment-là, c'est un chaos total, une vraie poudrière, où les grandes familles se font la guerre. Impossible de gouverner tranquillement. Du coup, il cherche une porte de sortie, un refuge. Et Avignon, c'est juste parfait. C'est déjà un territoire qui appartient à l'Église, c'est calme, et c'est juste de l'autre côté du fleuve du Royaume de France. L'idée, c'était vraiment, on y va le temps que les choses se tassent.
Sauf que, vous vous en doutez, le temporaire va durer un peu plus longtemps que prévu. L'orage ne passe jamais vraiment. Et après Clément V, ce ne sont pas un ou deux, mais 6 autres papes, tous français, qui vont lui succéder à Avignon. Ce qui ne devait être qu'une petite escale diplomatique est devenu le nouveau centre de gravité de la chrétienté, et ça a duré près de 70 ans.
Et c'est là que le contraste devient absolument saisissant. Parce que, de l'extérieur, on l'a vu, ça a l'air d'une prison, mais à l'intérieur... Ah, à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Une histoire de luxe, de pouvoir, de fêtes incroyables. Allez, on pousse la grande porte. On va voir ce qui se passait vraiment derrière ces murs.
D'abord, il faut savoir que le palais a été construit en un temps record, moins de 20 ans pour l'essentiel. Mais en réalité, ce n'est pas un palais, c'est plutôt 2 palais en un. Et ils sont le reflet de 2 papes aux visions radicalement opposées. Le premier, Benoît XII, c'est un moine, un vrai. Il veut un bâtiment sobre, fortifié, presque un monastère. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Palais Vieux. Mais juste après lui, arrive Clément VI. Et là, c'est un changement total d'ambiance. Lui, c'est un prince de l'Église, un esthète qui a une vision bien plus grandiose.
Avec Clément VI, tout bascule. Son but, ce n'est pas juste de régner, c'est d'éblouir le monde entier. Il lance donc la construction du Palais Neuf, juste à côté du premier. Et là, c'est une explosion de luxe, de raffinement. Le résultat? Tous les grands artistes, les banquiers, les penseurs de l'époque se ruent à Avignon. La ville devient, ni plus ni moins, la nouvelle capitale de l'Europe.
Et le meilleur symbole de cette opulence, c'était dans les assiettes. Alors là, il faut oublier l'image du repas frugal au monastère. On parle de festins complètement délirants. Imaginez des salles immenses, des centaines d'invités, des fontaines, de vin. Et dans les assiettes, des plats incroyables comme des cygnes entiers rôtis. Mais le vrai signe de richesse, c'était les épices, qui à l'époque valaient littéralement leur poids en or. Chaque banquet était une véritable démonstration de puissance.
Mais la plus grande surprise, le secret le mieux gardé du palais, on ne le trouve pas dans ces grandes salles de réception. Non, il faut aller voir ailleurs, dans un endroit beaucoup plus intime, là où personne n'était censé regarder, les appartements privés du pape lui-même.
Alors imaginez la stupeur, on entre dans la chambre du chef de l'église, le représentant de Dieu sur terre. On s'attend à voir quoi? Des scènes de la Bible, des saints, des anges? Non? Eh bien pas du tout, zéro. À la place, les murs sont couverts de fresques montrant des scènes de chasse, de pêche, des jardins luxuriants remplis d'oiseaux exotiques. C'est le portrait intime d'un chef spirituel qui, en privé, était aussi un grand seigneur qui aimait beaucoup les plaisirs de ce monde.
Mais voilà, toutes les fêtes ont une fin. Et pour la papauté d'Avignon, la fin va être particulièrement brutale. En 1378, le pape retourne enfin à Rome. On pourrait croire que c'est la fin des problèmes, mais en fait, c'est le début d'une crise encore plus grave qui va carrément déchirer l'Église et replacer Avignon au cœur de la tourmente.
C'est le chaos total. Un pape est élu à Rome, mais les cardinaux français contestent l'élection et ils élisent leur propre pape, qui revient s'installer à Avignon. Pendant près de 40 ans, la chrétienté a donc 2 papes. 2 cours, 2 administrations. L'Europe est forcée de choisir son camp. Avignon n'est plus un refuge, c'est devenu le symbole de la division.
Une fois le schisme enfin résolu et les papes définitivement rentrés à Rome, le palais, qui était le cœur battant de l'Europe, devient un géant endormi. C'est le début d'une longue, très longue traversée du désert, avant une renaissance que personne, absolument personne n'aurait pu imaginer.
Le cœur du palais s'est arrêté de battre. Le bâtiment gigantesque devient une coquille vide, une proie facile pour les pillards. Ses trésors sont dispersés. Et c'est la Révolution française qui lui donne le coup de grâce en le confisquant comme bien national. À ce moment-là, on se dit que son destin est scellé.
Et voici ce qu'il est devenu. Pendant plus d'un siècle, le palais des papes a été transformé en caserne militaire. Vous imaginez ? Les grandes salles d'audience sont découpées par des cloisons. Les appartements des papes deviennent des dortoirs pour les soldats et, pire que tout, les fresques inestimables sont grattées ou simplement recouvertes d'un badigeon blanc. L'un des plus grands joyaux d'Europe a bien failli disparaître dans l'indifférence la plus totale.
Et puis, comme dans les meilleures pièces, il y a un retournement de situation. On est en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale. Un homme de théâtre, Jean Villard, a une idée de génie. En visitant la cour d'honneur du palais, il ne voit pas d'une cour de caserne abandonnée. Il voit une scène de théâtre. Le Festival d'Avignon est né. Et avec lui, la seconde vie du palais.
Finalement, l'histoire du palais des papes, c'est le récit incroyable de la transformation du pouvoir. Le pouvoir spirituel est devenu politique, le politique est devenu militaire, et le militaire a fini par s'effacer pour laisser place au pouvoir de l'art. Et ça nous rappelle peut-être que les plus grandes forteresses, qu'elles soient bâties au nom de la foi ou de la guerre, finissent toujours par devenir des scènes, en attendant simplement que de nouveaux acteurs viennent y raconter une toute nouvelle histoire.